sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Villast. On parlera de trois mangas des éditions Glénat avec la présentation de Mon voisin Totoro, la réédition 2018. On aura la chronique du volume 19 de One Piece. Oui, je sais, je suis pas mal en retard. Et on aura aussi la chronique du volume 10 des Enfants de la Baleine. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On parlera culture, on continuera puisqu'on est un peu dans une émission spéciale Glénat, donc qui publie Totoro. On va continuer à parler des objets du quotidien japonais que vous pouvez découvrir dans le film d'animation Mon voisin Totoro. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec un puissant séisme sous-marin qui a été enregistré près de la côte nord-est du Japon. Et on finira avec une petite news musicale concernant le nouveau single de Takanori Nishikawa. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Taimu Torabelu de Naohito Fujiki. Et on reviendra juste après pour parler du groupe Villast. Donc c'était Naohito Fujiki avec la chanson Taimu Toraberu. On passe maintenant à la présentation du groupe Vilast. Donc c'est un groupe japonais de rock Visual Kei qui a fait ses débuts en 2009 et s'est séparé en 2011. Il se composait de 4 membres. On avait Hajime, du membre Amanjuku et ex-membre du groupe Noir à la basse. Hiro, ex-membre du groupe Vega à la guitare. Shiena du groupe Vizu et ex-membre de Dragon Weeper au chant. Et Yoshi, ex-membre du groupe Vega à la guitare. On compte aussi un ex-membre, Mako, ex-membre du groupe Vega également, qui était quant à lui à la batterie. Vilast est un jeune groupe créé en 2009 par Shiena, ex-chanteur du groupe Dragon Weeper. Le 11 décembre 2009 et le 10 janvier 2010, ils effectuent leur premier live avec des groupes de la PS Company, tels que X-Trip X, Virgil et Serial Number. Le 17 mars, ils sortent leur premier single Alive, suivi le 16 juin du single Red Rabbit. Le 15 septembre 2010, sort un nouveau single intitulé Chudokusei Gutter Noise, qui sera accompagné du premier PV du groupe. Dès lors, le groupe participera à de plus en plus de concerts et organisera plusieurs events qui auront réuni à chaque fois beaucoup de fans. Le 9 janvier 2011, le groupe effectue son premier one-one au Ruido K2, un live qui affichera Sold Out et annoncera une bonne année pour le groupe, qui enchaînera les sorties de singles et de PV. Leur quatrième single, Taisho Nenrei Jugosai Miman, accompagné d'un nouveau PV, sort ensuite de l'ordinaire, le groupe abordant un style plus Akihabara donc dans ce single. Le 13 avril sort un nouveau single, le cinquième du groupe, accompagné d'un nouveau PV. Par la suite, le groupe participera à de plus en plus de concerts et accompagnera de nombreux groupes connus, tels que End Eccentric Agent, Virgil, Ayabi, X-Trick Ips, Vinyu et Screw. Ils participeront également au Battle Royale Circuit Kanto, accompagnés des mêmes groupes, lors duquel ils feront une mini-tournée à travers tout le Kanto sur 5 dates. Le 17 avril, ils participeront également à un concert organisé par la PS Company à Tokyo, dans la salle du Takodanababa Area. Voilà. Donc côté discographie, le groupe Vilast a sorti 7 singles, le premier Alive qui est paru le 17 mars 2010, et le dernier c'est Plasma avec plein d'étoiles entre chaque lettre, qui est sorti le 27 juillet 2011. Du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Vilast. On commence avec Chudokusei Gutter Noise, et on reviendra juste après pour parler du manga Mon Voisin Totoro.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
キラキラ光るあの星たちが希望を乗せて踊り始めた何百年の時を超えて今すぐ君の元へ行くよ。キラキラ光るあの星たちが僕らの前で光り始めた予感の瞬く間にさあ君の願いを空にください。僕が叶えてあげるからね。
Donc c'était Villast avec la chanson Plasma. On passe maintenant à la présentation du manga Mon voisin Totoro, la réédition 2018. Donc c'est un anime comics de genre aventure, fantastique, tranche de vie qui a été écrit par Miyazaki Hayao du studio Ghibli. Ce one-shot tout en couleur est paru en France chez Glénat dans sa collection Kids le 5 juin 2018 au prix de 15,50€. Donc le résumé de ce manga, voici le récit complet du film Totoro, montage en BD des images du film éponyme à la manière du roman photo. On y retrouve la famille Kusakabe arrivant à la campagne et s'installant dans une maison bucolique près de laquelle s'élève un camphrier immense. Mais dans ce dernier réside Totoro, esprit de la nature bienveillant et protecteur, qui va prendre les deux petites filles, Mei et Satsuki, sous son aile. Emblème à plus d'un titre des studios Ghibli, Totoro est l'œuvre tutélaire, maîtresse de la pensée Miyazaki. S'y incarne son rapport au monde et à la nature, son sens inné de l'enfance, cet esprit quasi animiste qui traduit la vie en toute chose et qui a porté l'artiste à créer cette ode au retour à la Terre. Avec Totoro, les éditions Glénat commencent la collection Ghibli où vous pourrez découvrir les plus grandes œuvres du studio initiées par Miyazaki via de splendides artbooks, des anime books et également des picture books, disponibles donc tous dans la collection Glénat Jeunesse. Voilà, donc mon voisin Totoro, l'anime books à retrouver aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite bien évidemment l'ending du film d'animation Tonari no Totoro, c'est Tonari no Totoro de Inoue Azumi, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 19 de One Piece. Donc c'était Inoue Azumi avec la chanson Tonali no Totoro qui a servi de d'ending pour le film d'animation Tonali no Totoro ou Mon voisin Totoro en français. Alors, on passe maintenant à la chronique du volume 19 de One Piece. Je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique qui a été écrit par Oda et Ichiro, traduit par Sylvain Choulet pour la première édition et prépublié dans le Shukan Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 98 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 97 tomes de sortie. Ce volume 19 est paru le 8 janvier 2004, c'est pour ça que je disais que je suis quand même pas mal en retard, au prix de 6,90€. Le résumé de ce tome, alors qu'à Alabasta, la relation est tendue entre rebelles et armée royale, Vivi et l'équipage tentent de gagner Yuba, le siège de la rébellion, mais une fois là-bas, ils constatent qu'il n'y a plus personne. Ils partent alors pour Renbase, où Luffy a l'intention de défier Crocodile. Commence alors une longue marche dans le désert. À court d'eau, Luffy et Usopp se précipitent dans une taverne pour acheter des barriques. Mais lorsqu'ils arrivent, ils tombent une fois de plus sur le colonel Smoker. La situation entourant le royaume d'Alabasta est critique et une seule personne est responsable de la guerre civile imminente, Crocodile. Pour le mettre hors d'état de nuire, Luffy et les siens se dirigent donc vers Renbase, la ville où se terre le capitaine corsaire, mais atteindre cet adversaire ne sera pas simple. Au même moment, le roi Cobra se met en marche, tout comme la rébellion qui tient le souverain comme unique responsable de la situation. Donc jusqu'à présent, One Piece était un excellent manga d'aventure, faisant l'aude à la belle camaraderie, tout en intégrant un humour efficace et étant servi par l'imagination débordante d'Eiichiro Oda. Mais avec ce tome 19, la série semble franchir un autre cap, celui de la maturité. On le sentait déjà depuis quelques tomes, mais l'arc d'Alabasta s'enrichit petit à petit d'une trame politique captivante, ne limitant donc pas l'aventure actuelle de Luffy à un simple affrontement contre l'organisation Baroque Works. Il est ici question de manipulation du peuple, de rébellion citoyenne et d'une guerre civile sur le point d'éclater, des enjeux particulièrement puissants qui pourraient soulever l'univers de la série. Ce 19e tome est la preuve de la maîtrise d'Oda de son arc, aussi importante que soit la progression de Luffy et de son équipage, c'est tout le développement politique et le lancement des hostilités qui tient en haleine dans ce volume. Une intrigue due aux manipulations de l'odieux crocodile, puisque dans les autres camps, aussi bien du côté du roi que de Koza, on sent des personnages humains, luttant pour leur peuple plus que pour leurs intérêts, une noblesse de ton toujours très bien gérée par l'auteur. Évidemment, en parallèle, le face-à-face entre l'équipage de Luffy et Crocodile est une partie clé de cet arc. On sent ici qu'Eiichiro Oda prend son temps pour amener la confrontation finale, laissant le temps à la fameuse rébellion d'éclater, rendant ainsi nos héros captifs de l'adversaire, du moment qu'est le capitaine corsaire Crocodile. Un bon moyen de montrer que Crocodile est d'un autre niveau que les précédents grands ennemis de la série et que l'univers prend de plus en plus d'ampleur. En résulte un long passage bien rythmé par les interventions des différents personnages, y compris Vivi qui a droit à son petit moment de gloire, ainsi que Sanji. Le tout dans un certain suspense, l'auteur étant habile pour planter une situation dont on ne peut deviner l'issue, ce qui contribue aussi à l'efficacité du rythme. Difficile alors de quitter le volume en pleine lecture, et plus globalement, c'est tout l'arc Alabasta qui devient de plus en plus captivant. À l'heure où la série a une certaine avancée, mieux vaut avoir les volumes suivants sous la main. Donc on a donc là un 19e volume riche par son intrigue, ses ambitions, ses personnages et son rythme. One Piece était déjà un très bon titre, mais la série parvient encore à se bonifier. Avec ce tome, le statut mythique de l'œuvre se confirme un peu plus, sachant que les plus grands moments restent encore à venir. Voilà, donc One Piece à retrouver pour le moment en 97 tomes aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite le 4e opening de l'anime One Piece, c'est Bon Voyage de Bon Bon Blanco. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. Bon voyage, mabushi. c'était Bon Bon Blanco avec la chanson Bon Voyage qui a servi de quatrième opening pour l'anime One Piece. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu des sorties aujourd'hui lundi 22 mars chez Black Box avec le volume 1 de Amon Saga, le volume 1 de Asumi, les volumes 1 et 2 de Phobia, donc une série qui sera terminée en deux tomes. On a eu le volume 1 de Kako Tsuken Nayo Arrête de frimer et le volume 1 de Yuko Chasseuse de démons. Pour mercredi 24 mars aux éditions Meiyan, on aura la sortie du volume 1 de Chilling Life in a Different World, le volume 10 de Jormungand, le volume 6 de Konosuba Sois béni monde merveilleux, le volume 1 du 9 août Tu me dévoreras, le volume 3 de Masamune Kun's Revenge, le volume 3 de Shigori l'édition 2021 et le volume 1 de The Breaker l'édition Ultimate. Aux éditions Kazé, on aura la sortie du volume 40 de IQ, Les As du Volet, et le volume 16 de We Never Learn. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 5 des Aventures de Kirby dans les Étoiles, le volume 4 de Libraire Jusqu'à l'os, qui sera le dernier tome de la série, le volume 2 de Splatoon Histoire Poulpe, le volume 11 de Splatoon, le volume 21 de Super Mario Manga Adventures, et le volume 1 de Yo, c'est moi Wario. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 5 de Sido, la réédition 2021. Et aux éditions Pika, ce sera la sortie du volume 7 de Spirit Seekers. Pour jeudi 25 mars, chez Akata, on aura la sortie du volume 1 de Analog Drop, le volume 5 de Tant que nous serons ensemble, le volume 3 de Trait pour Trait, Dessine et Tais-toi, et le volume 5 de À tes côtés. Aux éditions Komiku, on aura la sortie du volume 12 de Arte, le volume 17 de Gift, plus ou moins, et le volume 1 des Tisserands de la Vérité. Ensuite, aux éditions Hachette, on aura le volume 17 de Naruto. Aux éditions Omage Books, la sortie du volume 1 de Purgatory Girl. Et aux éditions Meiyan, ça sera la sortie du volume 10 de Tomber du Ciel. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 26 mars avec chez Taifu Comics les volumes 1 et 2 de Citrus, donc dans un petit pack. Vous aurez aussi les volumes 3 et 4 de Deadlock, le quatrième tome qui sera le dernier tome de la série. Et si vous ne l'avez pas encore commencé, cette série, vous pourrez retrouver aussi un petit coffret avec les volumes 1 et 2, donc de Deadlock. On aura aussi le volume 3 de Kacho Fugetsu Beauties of Nature et le volume 5 de Netsuzo Trap Enter. Aux éditions Ototo, on aura ensuite la sortie du volume 4 de Danmachi Sword Oratoria, le volume 7 de La Petite Faiseuse de Livres Ascendance of a Bookworm, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 13 de Overlord. Aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 7 de Glen Ichinose, La Catastrophe de ses 16 ans, le volume 9 de Otaku Otaku, le volume 20 de Seraph of the End, le volume 7 de Shaman King et le volume 5 de Shaman King Flowers. Aux éditions Nazca, on aura la sortie du volume 5 de Soul Land et enfin aux éditions Des Bulles dans l'Océan, un très joli nom, on aura le volume 3 de Trail Freedom. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Flying Bird de News et on reviendra juste après pour parler culture. c'était Flying Bird de News. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des objets du quotidien japonais que vous pouvez découvrir dans le film d'animation Mon voisin Totoro. Donc on continue avec les Uchiwa. Donc sur un plan du film, en plutôt mauvais état, on peut voir accroché au mur un éventail de formes arrondies. Donc c'est ce qu'on appelle un Uchiwa, un éventail traditionnel japonais plat qui ne se plie pas et que l'on utilise en général pour s'aérer par temps de grande chaleur. Ici, celui-ci est placé dans la cuisine, on peut donc aisément imaginer qu'il était utilisé pour accélérer le refroidissement des aliments, notamment le riz. Ensuite, on a le Ohagi, donc pour leur souhaiter la bienvenue dans le village, la grand-mère apporte des gâteaux à Mei et à sa famille, de plusieurs couleurs différentes et à l'aspect plutôt gélatineux. Ce sont ce que l'on appelle des Ohagi, donc des pâtisseries traditionnelles faites de riz et de pâtes de haricots rouges sucrés appelées Anko. Étonnamment, cette recette est plutôt automnale et donc en léger décalage avec la saison représentée dans le film. Ensuite, on a le Sugagasa, donc pas le temps pour la retraite au Japon et notamment en campagne. Grand-mère a beau être âgée, elle continue de travailler dans les rizières. Ses collègues sont affublés de ce que l'on appelle un Sugagasa, un chapeau fabriqué à partir de plantes séchées originaires de Chine. De forme plus ou moins conique et relativement plat, il est utilisé par les paysans dans la plupart des pays d'Asie pour se protéger du soleil et de la pluie. Et enfin, on a le Orizuru. Donc lorsque Mei et sa petite sœur se rendent à l'hôpital pour rendre visite à leur mère, on peut apercevoir accroché à un lustre au-dessus du lit d'une autre patiente deux petites décorations de couleur orange. Donc, il s'agit de grues en origami appelées Orizuru. Il s'agit sans doute d'une référence à la légende des 1000 grues qui raconte que si l'on plie 1000 grues en papier dans l'année, retenues ensemble par un lien, on peut voir son vœu de bonne santé exaucé. Cette légende est rendue populaire par l'histoire de Sadako Sasaki, jeune survivante des bombardements atomiques. Donc atteinte d'une leucémie suite à l'explosion survenue à Hiroshima, elle entreprit de réaliser 1000 grues en origami afin de guérir. Hélas, la fillette est décédée de sa maladie avant de pouvoir terminer, en ayant réalisé seulement 644 grues. Ce sont alors ses petits camarades de classe qui ont décidé de terminer ces 1000 grues pour lui rendre hommage. Depuis, la grue en papier est devenue un symbole de paix, et il est coutume d'en offrir une guirlande à un proche malade afin qu'il retrouve sa bonne santé. Voilà, donc on continuera à découvrir les objets du quotidien japonais avec mon voisin Totoro la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Rwok Shwan Vena de Ngok Lane, et on reviendra juste après pour parler du volume 10 des Enfants de la Baleine.
Sân kia đàn bướm đang nhẫn nhơ đùa vui. Này mẹ thấy trong cây mai trước sân nhà nụ vàng ấp yêu bay trong gió la đà. Này mẹ thấy trong trời bao la đàn én đang nhẫn nhơ dập. Hãy trang phố vui chân người về. Mẹ thấy chàng thôn xóm rực đèn treo, nụ cười bóng tươi trên môi đã khô cằn. Mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về. Mẹ mừng mái trai
avec la chanson Rock Schwanvena. On passe maintenant à la chronique du volume 10 des Enfants de la Baleine. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, aventure, drame, fantasy, mystère qui a été écrit par Umeda Abi et prépublié dans le Mystery Bonita. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 18 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec pour le moment 16 tomes. Ce volume 10 est sorti le 7 mars 2018 au prix de 6,90€. Donc le résumé de ce tome, balayez les sables droit devant, vers ce lieu où vous pourrez vivre la tête haute. La baleine de glaise est arrivée à Amolantia. Le duc d'Actila, seigneur des lieux, décide malheureusement de prendre en otage Suo et les non-marqués qu'il avait convoqués en audience. En échange de leur vie, il exige que les marqués intègrent l'armée d'Amolantia. Oni et Chakuro, en proie aux doutes et aux tourments, décident chacun de leur côté de devenir soldats. Donc alors que guidés par Roxalito à Amolantia, les habitants de Falena espéraient enfin trouver la vie sereine à laquelle ils aspirent, la cruelle réalité sur leurs conditions les rattrape à nouveau. En effet, le duc d'Actila, seigneur des lieux, veut bien qu'ils restent là, mais à une seule condition, que les marqués mettent leur Saimia à son service et intègrent son armée. Pas d'autre choix pour Chakuro, Oni, Ginshu et plusieurs autres marqués, car le duc n'a pas hésité à prendre Suo et les non-marqués en otage pour arriver à ses fins. Est-ce vraiment la seule solution ? Alors que la vie de paix n'est toujours pas possible pour les enfants de la baleine de glaise, la situation se complique encore. En voyant un navire de l'Empire s'approcher dangereusement, Lycos, meurtri par les propos des jumeaux et se sentant injustement coupable, a décidé de disparaître et d'agir seul, quitte à mourir. Quant au duc, il est loin d'avoir déjà tout avoué, d'avoir avoué toute la vérité à Suo, et il lui réserve un problème supplémentaire. Le destin est décidément dur pour Chakuro, Suo et les autres habitants de la baleine, et leur quête pacifique semble encore et toujours vouée à être bafouée par les puissances guerrières de ce monde, dont ils ne connaissent finalement pas grand-chose et où on continue de les malmener. À l'image du duc d'Actila qui, pour le bien de son armée, mais aussi pour des croyances de son peuple, les manipule, ou d'Orca qui se voit confier une nouvelle mission de conquête qui poussera forcément Chakuro et les autres à croiser sa route. Alors qu'un climat de guerre s'installe au fil de ce volume, Abi Umeda brille surtout sur deux points. Donc tout d'abord sa patte visuelle inimitable, toujours aussi riche dans ses décors finement dessinés et tramés, et dans le design de ses personnages qui dégagent à nouveau plus d'une fois un mélange de sensibilité et de fragilité. Ensuite, son long approfondissement de ses personnages et de leurs tourments intérieurs, à l'image du duc enfermé dans ses croyances au point de voir la peur et la haine s'emparer de lui, de Roxalito tiraillé entre amitié et désir d'être enfin reconnu par ceux qui le rejetaient, de Suo meurtri par cette situation où il voulait pourtant accorder sa confiance, d'Orca qui reste encore insondable à plus d'un égard, de Lycos endolori par son statut et par ce que son frère et son peuple veulent faire, de Chakuro qui a peur de voir la haine s'emparer de lui en fin de tome, etc., etc. Donc heureusement, il y a tout de même quelques brèves notes d'humour, essentiellement grâce à cette chère Ginshu et à son comportement avec Tignas, ou surtout avec le dénommé Monsieur Dango. Le récit reste ici ainsi captivant à suivre, toujours porté par son style graphique fascinant et par ses personnages qui continuent d'être bien travaillés. À l'heure où l'action risque de reprendre le dessus, la suite devrait être tout aussi prenante. Donc voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Sono Sakie de Ririko qui a servi de premier opening pour l'anime Kujira no Korawa Sajo ni Utau. Et on reviendra juste après pour une actualité au Japon. C'était Ririko avec la chanson Sono Sakie qui a servi de premier ending pour l'anime Kujira no Korawa Sajo ni Utau. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc un puissant séisme sous-marin s'est produit samedi 20 mars près de la côte nord-est du Japon. Le tremblement de terre d'une magnitude de 6,9 s'est produit à 18h09 ou 10h09 à Paris, à une profondeur d'environ 60 km sous l'océan Pacifique et en face du département de Miyagi. Aucune victime ni dégâts matériels n'est à déplorer. L'agence météorologique japonaise avait d'abord émis un avertissement au tsunami, mais les vagues causées par le séisme n'ont finalement atteint qu'un seul mètre environ. Cette alerte a par conséquent été levée au bout d'un peu plus d'une heure, mettant ainsi fin aux mesures d'évacuation qui concernaient des milliers de foyers. Les fournisseurs d'électricité et l'autorité de sûreté nucléaire japonaise ont déclaré qu'aucun dégât n'avait été constaté dans les centrales nucléaires de la zone. Le trafic ferroviaire a néanmoins été suspendu, y compris pour les trains à grande vitesse Shinkansen. Voilà, donc on va pouvoir écouter tout de suite une autre chanson, Shwanketa de New Chin en featuring avec Tam Duan, Long Tung Chuan et The Sun. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
Năm cũ sắp qua năm mới cận kề, người ta trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm rước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng.
Suốt đời.
Donc c'était New Shin avec la chanson Chuan Keta en featuring avec Tam Duan, Luong Tung Chang et The Sun. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc Takanori Nishikawa sortira un nouveau single le 21 avril prochain. La chanson titre Eden Through the Root, produite par Yutaro Fujinaga, servira de générique d'ouverture pour l'anime Eden's Zero. Le single sera disponible en 3 éditions, dont 2 qui contiendront la face B, Judgment. Composé par Hiroyuki Sawano, ce morceau sera le thème musical de la 3e saison de la série fantastique de marionnettes Thunderbolt Fantasy. La collaboration de Takanori Nishikawa avec la franchise japano-taïwanaise remonte à la sortie du single Heimei en 2016. Donc, Takanori Nishikawa a également rejoint Lisa et Takumi Kitamura de Dish pour un album hommage au producteur décédé Kyohei Tsutsumi. Le chanteur y interprète une reprise de Kimi Dakeni, succès de Shonen Tai sorti en 1987. Donc Kyohei Tsutsumi Songbook paraîtra quant à lui le 24 mars prochain, dans 2 jours. Donc pour terminer cette émission, on va pouvoir s'écouter la chanson 1-2-3, une reprise du titre d'After the Rain, interprétée par Takanori Nishikawa et Sho Kiryuin du groupe Golden Bomber. Si vous avez l'occasion d'aller voir le clip et que vous connaissez un peu le groupe Golden Bomber, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un clip parodique, c'est assez rigolo. Voilà, donc du coup, on va s'écouter ça pour finir l'émission. Je rappelle que vous pouvez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!